Jean-Christophe Frisch, bonjour.
Bonjour Françoise.
Alors, dans quelles circonstances la musique est-elle entrée dans votre vie ?
Oh là là, c'est quand j'étais, je pense encore dans le ventre de ma mère probablement. Non, mes parents étaient musiciens, mon père est toujours musicien, il en sait beaucoup plus tard, quand j'étais déjà grand, c'est devenu son métier, mais la maison était remplie de musique aussi loin que remontent mes souvenirs.
Effectivement, c'était dans le ventre de votre maman. Mais alors, pourquoi la flûte ?
Ou alors là, c'est vraiment un concours de circonstances, probablement parce que j'étais un musicien paresseux et que c'est facile à transporter. Et voilà, c'est mon père qui m'a mis la première fois les mains sur une flûte à bec parce que j'apprenais le piano, mais c'était compliqué à transporter en vacances. Donc il voulait que je continue à faire de la musique en vacances. Donc voilà, j'ai fait un peu de flûte à bec et puis de fil en aiguille, je suis devenu flûtiste, mais j'ai pris un peu le chemin des écoliers pour ça.
Effectivement. Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre parcours de formation ?
Alors, pour devenir musicien, j'ai fait une maîtrise de biologie, ce qui est très logique. Finalement, ça m'est relativement utile parce qu'avoir appris ce que c'est qu'une démarche scientifique, pour quelqu'un qui s'intéresse à la musicologie, c'est quand même une chose formatrice. Savoir que la musique, c'est aussi une chose qui se réfléchit, ça fait partie du monde de la pensée, la musique. C'est pas seulement l'expression des sentiments, c'est aussi une accumulation de connaissances, de compétences, de gestes, etc. Et donc, on doit réfléchir sur comment fonctionne la musique, comment on la fait, comment on la pratique. Et la culture scientifique m'a été précieuse pour ça.
Finalement, la biologie peut mener à la musicologie. Où se situent vos influences musicales ?
Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais, je dirais en terminale, un truc comme ça, j'écoutais de la musique clandestinement à des heures indues, à des heures où mes parents auraient bien voulu que je sois plutôt en train de dormir pour pas m'endormir en cours d'histoire géo le lendemain matin. Mais j'écoutais des choses comme ça. Et sur France Musique, à ces heures-là, on entendait des musiques du monde. Et je ne me rappelle plus du tout qui c'était, mais j'ai entendu un joueur de Naï du Moyen-Orient, formidable. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de, vous savez, le genre d'illumination qu'on peut avoir quand on est adolescent, on a l'impression d'avoir compris le monde. Et en entendant ce joueur de Naï, j'ai perçu comment la musique pouvait être une alternance de situations d'équilibre et de déséquilibre. Comment est-ce que l'accord final est une situation d'équilibre et puis que quand un morceau commence, on va créer des tensions qui progressivement vont se résoudre. Et je pense que c'est assez valide pour de très nombreuses sortes de musique. Il y a des notes pivot dans la musique, il y a des accords, il y a des toniques, il y a des points d'équilibre vraiment clairement, et puis des moments où on ne pourrait pas rester où on en est, ça ne peut pas être fini comme ça. Et j'ai eu la sensation, en écoutant ce musicien, de comprendre ça de façon presque universelle. Donc, sinon, mon univers, c'est celui de la musique classique, de la musique ancienne. J'ai été un fan de Franz Brueggen dès la première heure, de Harlancourt, etc. Mon père est claveciniste. Je baigne dans ce monde de la musique baroque depuis toujours.
Vous êtes un héritier de la musique ancienne. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à consacrer votre vie à la musique, puisque vous avez fait des études de biologie ?
Probablement encore des désirs d'adolescent. J'avais fait un deal avec mes parents, je leur avais demandé si par hasard au service militaire on ne voulait pas de moi. J'ai mis un peu du mien, je dois dire, pour qu'on ne veuille pas de moi. J'avais droit à une année sabbatique, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'avais le droit d'interrompre mes études de biologie pour, pendant un an, faire ce que j'avais envie de faire. Et en l'occurrence, c'était de la musique. J'ai commencé à avoir mes premiers engagements professionnels à ce moment-là. J'ai commencé à enseigner la flûte à bec dans des écoles de musique locales. Et puis, voilà, progressivement, je ne suis jamais revenu à la bio.
Voilà, et c'est grâce à un service militaire que vous n'avez pas fait. Qu'est-ce qui vous a, en fait, dans quel esprit plutôt vous avez créé votre ensemble 18-21, le baroque nomade ?
Je vais vous répondre de la façon la plus directe et la plus franche qui soit. Au départ, j'ai créé cet ensemble aussi parce que j'avais pas suffisamment de boulot. C'est-à-dire, j'étais dans une période où je n'avais pas assez d'engagement en tant que flûtiste de baroque d'orchestre. L'orchestre avec lequel je travaillais n'avait pas besoin de flûte assez souvent pour que je gagne ma vie. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis j'avais fait l'année précédente un disque des sonates de Vivaldi qui avait bien marché. Les musiciens avec qui j'avais joué me disaient, mais pourquoi tu ne crées pas ton ensemble? Et voilà, j'avais le temps et je me suis lancé progressivement, mais ça a été tout doucement au début. Hein. La première année, on a fait un concert, puis la deuxième, quatre. Voilà, et donc pour arriver à la trentaine de concerts annuels qu'on fait maintenant dans plein de pays, il a fallu du temps.
Mais donc, quels sont les fondamentaux philosophiques et musicologiques du baroque nomade? Parce que créer votre ensemble, effectivement, beaucoup de gens de votre génération et même d'après, créent leur ensemble. Mais ça suffit pas. Le baroque nomade, il y a un petit plus.
Alors, je dirais plusieurs choses. D'abord, ça a évolué au cours des 20 et quelques années depuis que je l'ai créé en 94. Donc, voilà, les choses changent. Depuis le début, une chose qui était très importante, c'était de tenter de restituer ce qu'on appelait les parties molles de la musique ancienne. C'est-à-dire, on disait, une partition de musique ancienne, c'est un peu comme un fossile. On a la coquille, qui est la partition, mais l'animal vivant qui est dedans, on l'a pas. Et cet animal vivant, c'est le musicien qui est en train d'improviser, qui est en train de jouer avec sa personne, ses sentiments, ses ressentis, etc. Et on a, depuis le début, travaillé sur cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pas transmissible par l'écrit et qui est nécessaire pour faire vivre cette musique baroque.
Alors on parle volontiers d'écrivain voyageur, vous êtes donc un musicien voyageur.
Ah oui, ça, je suis incontestablement un musicien voyageur. Il y a quelques années, j'ai compté le nombre de pays dans lesquels j'étais allé. Il y en a plusieurs dizaines. J'ai oublié le résultat que j'avais trouvé, mais il y en a beaucoup. Et en ce qui concerne les concerts, je crois qu'on a joué dans 36 ou 37 pays différents. C'est un peu notre vocation, puisqu'on travaille sur les musiques baroques qui ont fait des voyages outre-mer à l'époque. Donc on travaille sur cette musique qui a servi de moyen d'échange avec des peuples qui étaient des Martiens à l'époque. On débarquait, je ne sais pas, quelque part en Afrique du Sud, on rencontrait des gens, on n'avait aucune langue commune avec eux, et un moyen d'entrer en contact, c'était la musique. Parce que la musique, même bizarre, même de la musique de Martiens, ça attire la sympathie et la bienveillance des gens qu'on rencontre. Donc les gens qui partaient en voyage pour découvrir le monde, ils étaient souvent musiciens, ils emmenaient des musiciens avec eux. Et pour l'anecdote, il y a quelques décennies maintenant, on a retrouvé la cabane de l'hivernage qu'avait fait Barents quand il a voulu trouver la route de la Chine par le nord, donc par le pôle nord. Et on a trouvé les objets qu'ils avaient emportés pour faire ce voyage. Et parmi les objets, il y a une flûte traversière. Donc à l'époque, on partait en Chine par le pôle nord. Parmi les objets nécessaires dont on se chargeait, il y avait une flûte traversière. Ça en dit long, je trouve que ça montre que la musique était d'abord une chose quotidienne, une chose dont on ne pensait pas pouvoir se passer. Donc comme on ne pouvait pas écouter les autres, il fallait en faire soi-même. Ça, c'est un grand changement par rapport à l'époque actuelle. C'est que les gens, s'ils voulaient faire de la musique, ils devaient prendre leur luth, leur flûte, leur clavicorde ou leur corde vocale. Les gens chantaient quotidiennement, les gens chantaient de façon banale et sans enjeu je sais pas comment dire, d'être sur la scène. Ils chantaient parce qu'on chante, dans la vie on chante, et ça existe d'ailleurs encore dans de très nombreuses régions du monde. Les gens chantent au chant, les gens chantent en travaillant, les gens chantent quand ils font la fête le samedi soir, les gens. Et chez nous, c'est beaucoup en voie de disparition, ce genre de choses. Si on aime la musique, on en écoute dans des boîtes électroniques. Donc c'est une relation à la musique qui est devenue complètement différente.
Et qui n'est plus charnel. Alors finalement, vous faites un peu de la géopolitique musicale.
Oh, ça va même peut-être encore plus loin que vous ne pensez, parce que d'abord, je pense que la musique est un objet politique, clairement, à toutes les époques. C'est un peu un lieu commun, mais je considère Jean-Baptiste Lully comme un grand compositeur stalinien. Il a fait son œuvre magnifique, extraordinaire, géniale, à la gloire de Louis XIV. Il est employé par Louis XIV pour chanter les louanges du pouvoir dictatorial et totalitaire du roi, et il le fait avec un talent incroyable, comme des grands artistes soviétiques ont fait des sculptures absolument fabuleuses qu'on trouve au carrefour dans n'importe quelle ville du fin fond de l'Oural. Il y a des statues qui sont d'une qualité exceptionnelle, qui sont à la gloire, enfin elles y sont peut-être plus maintenant, mais à la gloire du vaillant travailleur. Et dans un contexte comme ça, les artistes, les grands, savent créer des choses formidables.
Alors finalement, comment avez-vous été amené à vous intéresser à la Chine et à sa musique?
Alors ça, c'est d'abord un pur concours de circonstances au départ, puisque l'ensemble 18-21 était tout jeune, et évidemment, une des difficultés, c'est qu'il fallait trouver des engagements. Donc je décrochais mon téléphone pour appeler les directeurs de festival et leur dire « vous ne voudriez pas nous engager ». Je ne leur posais évidemment pas la question comme ça, j'essayais d'arriver avec un projet. Et un beau jour, je téléphone à un festival à Saint-Florent-le-Vieil dans le Val-de-Loire. Et par hasard, la secrétaire n'était pas là, le directeur me répond lui-même. Et il ne me connaissait pas du tout. Il me dit, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je viens d'avoir une défection. Je dois publier mon programme de festival demain. J'ai besoin d'un programme chinois. Est-ce que vous pouvez me le faire? J'ai dit oui. J'y connaissais rien, mais rien de rien. Et par la suite, d'ailleurs, j'ai découvert à quel point la culture chinoise, ça a changé un petit peu maintenant, mais c'était il y a presque 20 ans, la culture chinoise était inconnue et pas enseignée dans le patrimoine commun de ce qu'on apprend au lycée, en gros. On ne sait rien sur la Chine au lycée, peut-être un petit peu plus maintenant, mais pas beaucoup. On en apprend plus sur les Aztèques que sur les Chinois au lycée. J'ai d'ailleurs découvert, avec des amis sinologues maintenant, compris peut-être pourquoi ça semble être un particularisme français. La France a volontairement occulté la sinologie pour des raisons politiques, parce que c'était un sujet trop politiquement dangereux. La monarchie française n'a pas du tout aimé l'idée que la monarchie chinoise était éclairée, et voire même que le peuple avait le devoir de renverser la dynastie si l'empereur ne faisait pas son boulot d'empereur. C'était pas du tout facile à entendre de la part de la royauté, Louis XV, etc. Alors qu'en Allemagne, en Angleterre, l'intérêt pour la Chine était beaucoup plus important. Du coup, pendant très longtemps, la sinologie française a été assez en retard. Il y a probablement une raison à chercher de ce côté-là.
C'était qui ce directeur du festival de Saint-Florent-le-Vieil?
Alors c'était Pierre-Jean de Saint-Bartholomé, dont j'ai totalement perdu la trace maintenant, mais qui a vécu en Chine des années par la suite, un homme brillant. Et voilà. Et donc après, il a fallu monter le projet, parce que j'avais dit oui, mais il fallait quand même trouver ce que c'était. Donc j'avais dit oui en disant, bah oui, je sais qu'il y a eu des jésuites en Chine, donc on devrait peut-être pouvoir reconstituer un concert qu'ils auraient pu faire. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de conditionnels dans mon histoire. Et puis j'avais 8 ou 10 mois devant moi pour construire le projet, par chance. Donc je me suis mis au travail, j'ai téléphoné dans le monde entier et j'ai eu la chance de tomber sur des partitions d'une qualité exceptionnelle. Et c'est comme ça que le projet est né. Il y a des jésuites à Pékin pendant 2 siècles qui ont suscité une activité musicale d'un niveau vraiment formidable. Entre autres parce qu'ils se sont intéressés à la meilleure musique chinoise de leur temps. La musique des lettrés, la musique savante, ils auraient pu passer à côté. Et ils sont probablement, là aussi, c'est juste un concours de circonstances, ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment, ils ont dû rencontrer des très bons musiciens, ils ont compris que c'était des bons musiciens, ce qui est encore une chance, en tout cas certains de ces jésuites européens l'ont compris, donc ils ont appris la musique chinoise, etc. Et c'est par ces hasards-là que la chose s'est faite.
Que des heureux hasards. Alors Pierre-Jean de Saint-Bartholomé, il y a un peu moins de 10 ans, était attaché culturel à Pékin, finalement. Donc la Chine était toujours dans sa ligne de mire. Un mot peut-être sur la personnalité de Matteo Ricci, le personnage incontournable dès que l'on parle des rapports entre la Chine et l'Occident.
Alors, Matteo Ricci, c'est effectivement, on l'appelle le premier Européen des temps modernes qui soit arrivé en Chine. Alors, il y a évidemment tous les voyageurs du Moyen-Âge, et Marco Polo est le plus illustre, mais pas le seul. Donc, dans la période moderne, Matteo Ricci est le premier à arriver à Pékin et à créer des liens durables, pérennes, entre l'Europe et la Chine. Et les relations entre les puissances européennes et la Chine ne se sont pas du tout interrompues depuis, avec les vicissitudes que tout le monde connaît. Mais c'est vraiment un point de départ, Matteo Ricci. Et clairement, pour lui, la musique a été un moyen de contact contact avec les Chinois, non seulement la musique, mais aussi la science musicale, parce que très rapidement, les jésuites, qui étaient des savants, ont compris que la science chinoise était dans un état de développement tout à fait comparable à la science européenne, plus avancée dans certains domaines, moins dans d'autres. Les Européens étaient plus forts en astronomie, mais les Chinois plutôt plus forts en médecine. Voilà. Et puis en mathématiques, ils ont échangé des choses, ils n'avaient pas trouvé les mêmes trucs. Et dans la musique, il y a des éléments mathématiques, c'est-à-dire que le phénomène physique de la vibration sonore, c'est le même quel que soit l'endroit de la planète. Donc, quand on fait des mesures, qu'on soit chinois ou français, on trouve les mêmes trucs et on trouve les mêmes incohérences physiques de l'accordage des instruments. On ne peut pas avoir un instrument complètement juste, c'est physiquement impossible. Et les Européens qui sont arrivés là-bas ont remarqué que les Chinois l'avaient trouvé aussi. En Europe, c'était connu depuis Pythagore et en Chine depuis des époques comparables. Donc il y a eu un échange qui s'est fait sur ce domaine-là. Et puis très vite, des eunuques de la cour de l'empereur ont été invités par l'empereur à apprendre la musique occidentale et à apprendre les instruments occidentaux. Et il y a des lettres assez amusantes rapportées par le père Trigaud, donc, qui raconte la vie de Ricci, qui dit qu'il y a deux eunuques qui étaient censés apprendre à jouer du clavicorde et que le vieux, vraiment, il n'y arrivait pas du tout et qu'il était complètement ringard. Par contre, il y en avait un petit jeune, sans doute assez mignon, qui arrivait très bien et ils étaient très contents de lui donner des leçons de clavicorde.
Alors justement, Ricci, il a emmené dans ses bagages une épinette ou un clavicorde, on n'est pas très sûr. Lui, c'est pas une flûte pour aller au pôle Nord, mais c'est une épinette.
Alors je pense que c'est très vraisemblablement un clavicorde. C'est un instrument, depuis que j'ai fait ce travail-là, j'ai travaillé un peu plus généralement sur la question du clavicorde voyageur, puisqu'on a monté un programme de concert sur ce sujet-là précisément. Le clavicorde, c'est grand comme une valise. C'est tout plat, c'est pas lourd, ça se transporte facilement et c'est un instrument qui est délicat à jouer, mais qui était souvent présent sur les bateaux, ne serait-ce que pour servir de guide chant pour dire la messe par exemple. C'est un instrument qui pouvait être utilisé par un prêtre qui était là, qui n'était pas musicien du tout, mais il avait juste besoin d'un truc pour chanter à peu près juste pour ses offices. Donc il y avait beaucoup de clavicordes qui ont voyagé, on en a trouvé des traces dans le monde entier. On n'a malheureusement pas retrouvé celui qui a été apporté par Matteo Ricci. Un siècle plus tard, il était toujours là, puisque le père Charles l'a remis en état un siècle après Ricci. Il a vraisemblablement été conservé au Palais d'été et détruit au moment du sac du Palais d'été dont on connaît tous l'histoire.
Voilà, avec toutes les autres merveilles qui ont disparu. Alors à Macao, en 1601, il y avait un orgue, une école de musique et de composition et même une école de peinture pour former les Chinois à la pratique des arts occidentaux. Tout à l'heure, vous avez dit que des eunuques chinois prenaient les instruments occidentaux. Alors pourquoi toute cette effervescence et cette curiosité autour de notre musique ?
Ça, c'est difficile à savoir. Pourquoi ? J'en sais rien, pourquoi, à vrai dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pensée chinoise, enfin les sinologues vont peut-être me corriger, mais j'ai l'impression que la pensée chinoise a souvent cherché à incorporer les éléments qui pouvaient être enrichissants pour elle venus de l'extérieur. La pensée chinoise est un petit peu centripète, c'est-à-dire tout ce qui vient de loin et qu'on peut incorporer dans la pensée, on s'en sert, on l'utilise. Donc par exemple, des éléments de perspective ont été incorporés dans la peinture chinoise à partir du moment où les Européens sont arrivés. Ça ne veut pas dire que la peinture chinoise est devenue européenne, elle est restée totalement chinoise, mais les Chinois ont compris comment fonctionnait la perspective. Ils n'ont pas forcément voulu limiter parce qu'ils ne voulaient pas faire pareil, et ils avaient leur propre logique, leur propre esthétique. Des choses comparables se sont vraisemblablement produites pour la musique, mais elles se sont évaporées. C'est-à-dire que ce que les Chinois ont fait à ce moment-là avec la musique européenne, on ne le sait pas. Ça n'a pas été enregistré, pour des raisons bien évidentes. Donc on n'a que des descriptions assez vagues. On sait que le père un tel ou tel récemment converti tel néophyte, comme on disait, nouveau chrétien, a été à l'école de Macao et apprenait à jouer tel et tel air occidentaux, voire même en a composé. Mais toutes ces musiques-là ont disparu, on n'a pas de source.
Alors, la musique chinoise n'est pas polyphonique, la nôtre l'est. comment les Chinois ont-ils noté leur réaction en entendant nos musiques polyphoniques?
Alors, à la fin du XVIIe siècle, il y avait un missionnaire portugais, Tomás Pereira, qui était en poste à Pékin, on pourrait dire, et qui a été chargé par l'empereur Kangxi de réaliser un volume sur la musique occidentale pour la grande encyclopédie générale que l'empereur avait souhaité faire pour l'ensemble des connaissances du monde. Et ce père portugais est mort avant d'avoir fini, donc il y a un autre musicien italien, Teodorico Pedrini, qui est arrivé et qui a terminé le travail. Et on a un exemplaire de ce volume qui est très intéressant parce qu'il est annoté de la main d'un des fils de l'empereur. Et en marge de l'explication de ce que c'est que la polyphonie, le fils de l'empereur note « c'est comme quand on joue en même temps ». Les deux versions de Loi s'opposent sur la plage. Donc, il a écouté la polyphonie occidentale, il a compris la polyphonie occidentale par rapport au fonctionnement chinois. Nous, avec le recul, on considère qu'il n'a pas compris, mais il l'a compris à l'intérieur de son système. En miroir exactement, quelques décennies plus tôt, il y a un voyageur portugais, Gaspar da Cruz, qui a fait le tour de la Chine, mais sans débarquer vraisemblablement, et il assiste à un concert de musiciens chinois qui sont venus sur une barque au pied de son bateau pour jouer de la musique chinoise. Et il décrit la musique chinoise comme si c'était de la polyphonie. Donc il dit... Il y avait une flûte qui jouait le soprano, un rebec qui jouait l'alto, et j'ai oublié la liste des instruments. Il le décrit dans un cadre polyphonique, ce qui n'était certainement pas le cas. Donc, les deux perceptions se sont faites à l'intérieur des deux systèmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni l'un ni l'autre n'était dérouté par la musique de l'autre. Ça rentrait dans leur système, c'est pas grave, ils l'ont décrit avec leurs moyens, avec leur langage, et ils l'ont apprécié dans les deux cas.
Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de Pedrini, mais ce Pedrini, quand même, vous l'avez cherché longtemps et vous l'avez même enregistré. Vous avez enregistré donc des sonates de Pedrini. Donc comment avez-vous retrouvé ces musiques et à quoi ça ressemble ?
Alors d'abord, ça a été une chasse au trésor absolument épique et c'est ça qu'on a joué d'ailleurs pour le fameux concert dont j'ai parlé tout à l'heure pour le festival de Saint-Florent-le-Vieil. Donc ça a été des mois de travail. Voilà, c'était très drôle, la partition était cachée quelque part, j'ai fini par la trouver, il y a des gens qui savaient où elle était mais qui ne me l'ont pas dit, enfin ça a été assez amusant.
Elle était où finalement ?
Alors il y a un exemplaire à Paris que je n'ai encore pas pu voir parce qu'il est dans une bibliothèque qui est dans des cartons parce que une longue histoire de bibliothèque qui a été léguée à une autre et il n'y a pas de place pour déballer les cartons donc personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et l'autre copie est à Berkeley en Californie et c'est celle-là dont j'ai pu avoir des photos.
Est-ce qu'on pourrait dire que le XVIIIe siècle c'est aussi le siècle des Lumières chinoises ?
Oh là là, vous me posez des questions bien générales. En tout cas, la dynastie qui a pris place en Chine à partir du XVIIe siècle a un côté ouverture et monarque éclairé qui est certain, un attrait pour les sciences. Mais est-ce qu'on peut appliquer un terme, une catégorie comme ça, très occidentale à la pensée chinoise, à la structure ? Je ne sais pas si ça a tant de sens que ça. Le rapport entre science et pouvoir, entre connaissance et pouvoir, n'est pas structuré pareil dans les deux parties de la planète. Et dans les deux cas, c'est complexe. Mais clairement, il y a eu en Chine un attrait pour les lumières européennes. Ça, c'est sûr. Les sciences, l'astronomie, les pendules, les mécaniques, l'hydraulique, l'architecture, toutes ces connaissances-là. Ont intéressé la pensée chinoise.
Alors en 2002, vous retournez en Chine avec le sinologue, flûtiste et musicologue François Picard à la recherche des orgues et vous pénétrez dans une cité interdite qui ne ressemble pas du tout à celle que l'on peut voir aujourd'hui.
C'est vrai qu'on a eu la chance de visiter à ce moment-là les parties de la cité interdite qui n'étaient pas encore restaurées. Je crois que pour la plupart, elles ont été restaurées depuis. Donc c'était très spectaculaire parce qu'on voyait ces palais merveilleux avec des arbres qui poussaient à travers les toits, avec des on avait un peu l'impression de faire un voyage dans le temps, d'imaginer comment était cette cité interdite avant de devenir le musée brillant, clinquant et presque Disney World que c'est devenu maintenant. C'est fabuleux, la Cité Interdite, hein. C'est un de mes grands chocs esthétiques du monde entier. C'est une chose extraordinaire. Mais le voir dans cet état, comme c'était resté depuis des siècles, depuis Mao en tout cas, c'était vraiment très touchant. Et quand on s'est trouvé là-dedans avec deux orques de foire envoyés par la France dans les années 1900 et quelques, et alors qu'on nous avait expliqué que c'était des orques du XVIIIe siècle, on a bien rigolé.
Ah oui, c'est ça, vous n'avez jamais trouvé d'orgue du XVIIIe siècle.
On n'a jamais trouvé d'orgue du XVIIIe siècle. La dernière trace qu'on a, c'est clairement dans le palais d'été, juste avant l'arrivée des armées franco-anglaises.
D'accord, alors on a parlé de pas mal de jésuites depuis tout à l'heure. Il y a un autre jésuite musicien qui était Joseph-Marie Amyot, et lui aussi flûtiste comme vous.
Alors, Joseph-Marie Amyot, c'est un personnage fascinant. Il était musicien, mais pas seulement, grand homme de lettres, grand homme de science, avec des connaissances incroyables dans toutes sortes de domaines. Et au cours de sa vie, il est de plus en plus devenu chinois. Il s'est identifié à la pensée chinoise et on le voit par rapport à ses lettres, puisqu'il a terminé sa vie à Pékin. Et dans ses premières lettres, il écrit: « Les Chinois sont bizarres, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils n'ont vraiment rien compris à la vie. » Et à la fin de sa vie, dans ses lettres, il écrit l'inverse, c'est-à-dire il écrit: voilà, nous on pense comme ça, et vous, Européens, vous ne pourrez jamais comprendre parce que vous ne connaissez pas le vrai sens de la vie. Et donc il y a un parcours qui s'est fait chez lui qui est vraiment fascinant. Et du point de vue musical, c'est aussi très intéressant parce qu'il a noté ou fait noter une grande quantité de la musique chinoise qu'il a pu entendre à son époque, donc la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui nous permettent de connaître sur la musique chinoise des choses que les Chinois ne connaissaient pas, puisque très souvent, c'est les voyageurs qui décrivent des choses étranges, parce que sur place, tout le monde les connaît, on n'a pas besoin de les expliquer, tout le monde sait comment on joue, tout le monde sait comment on marche dans la rue, personne ne va faire un traité pour dire comment on marche dans la rue, mais les étrangers, ils arrivent, ils disent, les Chinois, ils marchent dans la rue comme ci et comme ça, ou ils jouent de la musique comme ci et comme ça. Et c'est grâce à Amyot qu'on peut connaître beaucoup de choses sur, par exemple, l'enchaînement des morceaux, comment les morceaux s'enchaînaient, comment on passait d'un morceau à un autre à cette époque-là en Chine. Ça, c'était totalement mystérieux et inconnu, et par les descriptions d'Amyot, on peut le comprendre.
Comme il était musicien, il a peut-être noté des musiques aussi.
Alors, François Picard et moi pensons qu'il n'a pas noté lui-même, plutôt qu'il a fait noter, vraisemblablement par des lettrés convertis, et il a inventé une notation musicale très très bizarre, qui réunit le système de la portée occidentale avec la notation musicale en caractère chinois, ce qui est une notation complètement redondante, puisque c'est comme si, au lieu d'écrire un fa sur une portée, à l'endroit du fa, on écrivait fa. Donc ça prend plein de place, toutes les quatre mesures, il faut tourner la page. Ça a évidemment l'avantage que ça peut être lu à la fois par les Occidentaux et par les Chinois, mais sincèrement, les deux notations sont assez faciles à apprendre. Quand on en connaît une, on apprend l'autre en 3 heures. Donc c'était pas très utile. Mais ce qui nous fait penser que c'est pas lui qui a fait les copies, c'est la qualité de la calligraphie. C'est même Amyot, même après des années, une calligraphie de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui avait appris ça tout petit, parce que une très belle calligraphie, c'est voilà.
Alors, on a parlé tout à l'heure du clavicorne, mais est-ce qu'on sait quels sont les instruments occidentaux qui ont fait le voyage en Chine?
Beaucoup, beaucoup d'instruments occidentaux ont fait le voyage. Et des instruments occidentaux ont été construits sur place. Par exemple, Teodoro Copedrini, dont on a parlé tout à l'heure, a construit des clavecins et des orgues. À notre connaissance, ils ont tous disparu, mais il y a même une sorte d'école de lutherie qui s'est faite là-bas. Il existe au Musée de la musique à Paris une guitare fabriquée en Asie, on ne sait pas exactement où, mais manifestement avec des techniques artisanales asiatiques. Et c'est un instrument qui a survécu, mais il y en a certainement des tas d'autres qui n'ont pas survécu. Et donc des instruments ont été faits à la manière d'eux par des artisans chinois. Il y a même des choses très curieuses qui se produisaient. On adorait la laque de Chine en Europe, donc on faisait des instruments en Europe, on les envoyait en Chine pour être décorés par les peintres chinois et on les ramenait en Europe pour les utiliser. Donc il y a des instruments qui ont fait le voyage pour ces raisons-là. Mais sinon, dans les concerts, on a des descriptions de violon, flûte, hautbois, basson, cor, cornemuse, trompette marine, clavecin, orgue, luth, viol de gambe, enfin toutes sortes d'instruments, il y en avait beaucoup, beaucoup. On a des descriptions où on dit que l'empereur avait un clavecin dans chacune de ses chambres. C'est sans doute un peu exagéré, mais il y avait certainement plusieurs clavecins à la cour de Kangxi.
En jouait-il ?
On dit qu'il en jouait. Et les avis sont partagés sur sa façon d'en jouer, puisque certains commentateurs désobligeants disent qu'il en jouait de façon simpliste et que l'admiration de ses courtisans quand il jouait du clavecin était juste de la pure courtisanerie et pas du tout artistique. J'ai eu la peine à croire que l'empereur, qui était considéré comme le modèle de tous les arts, puisse se permettre de faire devant sa cour quelque chose de ridicule. S'il jouait avec un doigt au clair de la lune, tout le monde s'en rendait compte et il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc je pense que s'il se permettait de jouer du clavecin en public, c'est que par rapport à des critères chinois de musique chinoise, il arrivait à faire quelque chose qui sonne légitime. Ce qui ne veut pas dire qu'il était capable de jouer du couperin ou du bac, pas du tout. Mais il arrivait à faire, sur un instrument occidental, quelque chose de chinois qui ait un sens par rapport à une oreille chinoise.
Fort dommage qu'on n'ait pas pu l'enregistrer. Alors, comment, fort de toutes ces études et investigations dans le monde de la musique occidentale en Chine, avez-vous commencé à travailler pour construire une interprétation ?
Dès le début, on a travaillé avec des musiciens chinois. On a la chance en France et à Paris d'avoir des musiciens chinois de haut niveau qui sont installés là depuis des années, qui parlent bien français, avec lesquels on peut assez bien se comprendre. On s'est mis dans une même pièce avec des instruments et on a joué ensemble et on a essayé de se comprendre et on a considéré que les mêmes causes pouvaient produire plus ou moins les mêmes effets. C'est-à-dire que si on donnait à des musiciens chinois venant de la musique traditionnelle avec peu de contact avec la musique occidentale. Si on leur donnait les partitions que les jésuites ont apportées là-bas et qu'on leur demandait de les jouer, on allait probablement arriver à un résultat qui est la meilleure approximation qu'on puisse avoir de ce qui s'est passé à l'époque. Donc on a fait ça à de nombreuses reprises, et puis au début, on rigolait tous parce que c'était nul. Et aussi bien les Chinois que nous, on se disait, mais c'est vraiment pas possible. Et puis les années ont passé, et on a mis vraiment plusieurs années avant de présenter ça en concert. C'est-à-dire on a travaillé ensemble, dans le silence de nos salons, pour arriver à comprendre comment ça marchait. On est arrivé à un résultat qu'on a considéré comme encourageant, et on l'a présenté en public à partir de ce moment-là. Ce qui a été très intéressant pour nous, Européens, c'est qu'on était face à des musiciens qui sont à la fois dans le domaine de la musique écrite, puisque la musique savante chinoise est écrite depuis des siècles, comme la nôtre, mais aussi dans l'oralité. C'est-à-dire qu'on peut jouer en Chine une partition écrite à condition d'avoir appris avec un maître comment on doit la jouer. Et ça, c'est une situation qui est très proche de celle du baroque en Europe. Pour pouvoir jouer du Lully, il fallait avoir appris avec quelqu'un qui, à l'époque, qui savait comment jouer du Lully. Et les Italiens ne savaient pas jouer du Lully, et s'ils voulaient jouer du Lully, ils venaient en France pour apprendre. Et on peut apprendre. Donc, c'était vraiment passionnant de voir cet aller-retour entre oral et écrit qui se passe pour des musiciens chinois, en se disant, mais c'est probablement quelque chose comme ça qui existait chez nous.
Oui, tout à fait. C'est aux sources de l'histoire de la musique. Que voulait dire François Picard quand il vous a dit « En Chine, la principale qualité d'un son, c'est d'être lointain ».
Alors ça, je dois dire que ça a été une grande leçon. La première fois que j'ai tenté de jouer sur ma flûte avec quelques amis, violon, clavecin, violoncelle, les airs chinois transmis par Amyot, et donc destinés, d'après lui, à être joués par des Occidentaux en France, puisqu'il a envoyé ses partitions à Paris, c'était pour que des Parisiens les jouent. Donc François est venu nous voir à notre demande et on lui a demandé des conseils. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il fallait que le son soit lointain. Et ça nous a paru très très hermétique. Et on ne savait pas du tout comment faire. Et alors quand on lui a demandé de nous expliquer plus précisément, il a pris, je ne sais plus si c'était sa flûte ou un truc comme ça qui était là, sur laquelle était gravé un petit poème, et il a commencé à nous traduire le poème. Et au bout d'un quart d'heure, il en était toujours au premier caractère. Parce que voilà, un caractère chinois dans la poésie, c'est plein de double sens, c'est plein de connexions avec plein de choses. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que la musique chinoise, c'est pas une musique où les notes ont une valeur par elles-mêmes. Les notes ont une valeur en relation avec toutes les autres, avec toutes celles qu'on a jouées avant, toutes celles qu'on jouera après, toutes celles qui peuvent être jouées en même temps. Il nous a expliqué qu'il y a des musiques en Chine qu'on ne devrait jouer que quand les oiseaux chantent. Et cette idée est merveilleuse. Ça veut dire que l'oreille musicale chinoise va appréhender l'ensemble du monde sonore qui se produit à un certain moment. C'est pas du tout la pensée occidentale. En tout cas, c'est pas la pensée occidentale de maintenant. Est-ce que ça a toujours été comme ça chez nous? C'est pas sûr, parce que quand on lit les ouvrages et les traités de musicologie ou de musique de 16e, 17e siècle, il y a toujours des très gros chapitres sur l'environnement sonore et des généralités sur qu'est-ce que c'est que le son, les liens entre les oiseaux et la musique et des choses comme ça. Donc je pense que, à partir de la Renaissance, en tout cas, parce que là on a des sources écrites, les musiciens occidentaux étaient très sensibles à ces questions-là et que ça s'est un peu délité depuis. Donc, encore un enrichissement. Donc, le son lointain, c'est que ben c'est pas on appuie sur la touche du do du clavecin et puis ça fait un do. Ce do-là qu'on fait, il est lié à tout notre passé de musicien et chaque note est le reflet de l'ensemble de ce qu'on peut faire. Donc, c'est une idée très métaphysique de la musique et ça nous a pris du temps pour accepter que c'était un apport exceptionnel à notre formation de musicien que François venait de nous offrir là.
Pour rebondir sur la musique qu'on joue avec le chant des oiseaux, ou à un moment de la journée, ça me fait un peu penser au raga. Matin, midi, soir, etc. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir une influence entre les musiques indiennes et les musiques chinoises ?
J'en sais rien du tout, sincèrement. Certainement, parce que bah, il n'y a que l'Himalaya entre les deux, et puis le bouddhisme a évidemment fait le voyage, les sciences indiennes en général aussi. La Chine a emprunté beaucoup, beaucoup à l'Inde. Donc il y a certainement des musiques qui ont traversé ces montagnes. En même temps, c'est des musiques qui sont structurées de façon complètement différente. Donc c'est difficile de répondre en deux mots et il y a certainement des spécialistes qui ont écrit des volumes entiers qui remplissent des bibliothèques américaines sur le sujet, j'en sais rien du tout. Les concepts de la musique, de la grande musique d'Inde du Nord sont très très différents des concepts de la musique chinoise et ces deux grandes pensées musicales, aussi complexes, riches et passionnantes que la musique occidentale, je connais un peu moins bien la musique d'Inde du Nord, mais j'en joue aussi, et donc voilà, ça me passionne aussi. Donc je ne sais pas répondre à votre question, mais c'est pas impossible.
Bon, on va chercher. Où en sont aujourd'hui vos recherches sur les échanges musicaux entre l'Europe et la Chine ?
Alors, on travaille en ce moment sur une nouvelle période qu'on découvre, c'est le 19e siècle. Évidemment, les relations politiques, voire militaires, entre l'Europe et la Chine ne se sont pas arrêtées au XIXe siècle, comme chacun sait. Il y a beaucoup de choses musicales très intéressantes qui se sont passées dans l'environnement des concessions, mais pas seulement. Et par exemple, à Shanghai, on a des traces de musique très, très intéressantes. Par exemple, il y a un lieutenant des armées de Napoléon III, qui sont allés donc là-bas pour la fameuse campagne, qui a écrit une sorte de journal de bord qui a été publié il y a quelques années. Il parle pas mal de musique, donc il assiste à des concerts de musique, il explique ce qui se passe, et on voit comment des instruments occidentaux sont déjà intégrés en 1860 et quelques, dans la musique chinoise. Et réciproquement, il assiste à des processions catholiques autour de l'église de la cathédrale de Shanghai avec des instruments chinois mélangés aux instruments européens. Voilà, donc on commence à travailler sur ce sujet-là. On a un premier concert qui a lieu l'été qui vient là, au Festival Berlioz, parce qu'il y a eu un concert chinois à Londres, à l'exposition universelle de 1851 ou 1852, j'ai un doute sur l'année, auquel Berlioz a assisté. Donc il a dit le plus grand mal, naturellement, comme toujours, puisque Berlioz, son business, c'était de dire du mal des autres. Donc il a détesté, naturellement, le concert de musique chinoise et il l'a qualifié des sobriquets les plus grotesques. N'empêche qu'on peut assez précisément comprendre à quoi il a assisté. Et puis il y a d'autres témoins du même concert qui laissent des témoignages beaucoup plus positifs. Donc je pense que c'était plutôt un bon concert. Et donc on travaille sur cette musique chinoise du 19e siècle qui était en relation avec l'Europe. Et c'est un champ qui s'ouvre devant nous. On commence juste.
Bon, bah alors, de nouvelles et belles découvertes musicales en perspective sur les rapports entre la Chine et la France. Jean-Christophe Frisch, merci.